Le hiéronymite Fray José de Sigüenza écrivait en 1600 dans la dédicace à Philippe III de la chronique de son ordre, je le cite, qu'il n'y a rien chez les hiéronymites qui n'appartienne à la maison royale. No hay en la orden de San Jerónimo nada que no sea de la casa real. Cette amitié entre l'ordre de Saint-Jérôme et la couronne espagnole est non seulement avérée, mais on peut même dire qu'elle est constitutive de l'identité et de l'histoire de l'ordre des hiéronymites, et ce dès sa période de formation. Si les hiéronymites doivent une grande part de leur prestige et de leur rayonnement à cette amitié royale, ils sauront témoigner en retour d'une grande fidélité envers les personnes royales. Et c'est donc de ce rapport de réciprocité que nous sommes partis pour tâcher de reconstituer l'image ou le portrait du roi proposé par les hiéronymites. Ces derniers n'ont jamais été connus pour avoir été de grands hommes de plume, et de fait la fécondité littéraire des hiéronymites n'est pas à attribuer à l'institution monastique, qui est avant tout centrée sur le culte liturgique, mais au mérite de quelques individus qui contribuèrent à pérenniser la mémoire de l'ordre à travers les siècles. Ainsi en est-il, pour citer quelques-uns, de Alonso de Oropesa, de Fray Hernando de Talavera, Pedro de la Vega, Antonio de Villacastín, Miguel de Salinas ou encore José de Sigüenza et Lucas de Alaejos, pour ne citer que les plus célèbres auteurs des 15e, 16e et 17e siècles. En conséquence, la longue amitié unissant l'ordre à la couronne n'a donné lieu à la publication d'aucune vie ou d'aucune biographie officielle des différents souverains qui ont marqué l'histoire de l'ordre depuis sa création en 1373 jusqu'à la sécularisation de 1835. C'est l'occasion de vous donner un petit peu les bornes chronologiques, sachant qu'après la sécularisation de 1835, l'ordre disparaît pour une période de moins de 100 ans et renaîtra peu avant la guerre civile, et qu'il existe encore deux couvents hiéronymites en Espagne, au Parral de Ségovie et à Yuste. Le fait que cette amitié n'ait pas été marquée par la publication d'une biographie officielle corrobore en quelque sorte l'affirmation du père Sigüenza, selon qui l'écriture des chroniques royales n'est pas l'affaire des moines, tout du moins des hiéronymites. Il nous dit dans la dédicace à Philippe III, « Alors, monjes jerónimos, no les está bien escribir historias de reinos ». L'ordre dispose en revanche d'une longue tradition historiographique interne, si je puis dire, que l'on doit à la décision du général Alonso de Oropesa, lors du chapitre général de 1459, de lancer un vaste projet de rédaction d'une chronique générale de l'ordre qui comptait alors moins d'un siècle d'existence. Cette entreprise ambitieuse visait à la fois à assurer à l'extérieur le rayonnement de l'ordre, mais aussi en interne, à rappeler à ses membres, en particulier aux novices, quelles avaient été sa vocation initiale et à leur faire connaître les décisions prises lors des assemblées générales. De cette imposante somme d'informations est née en 1539 une première chronique générale élaborée par le hiéronymite Pedro de la Vega, qui est relativement connue. Et de fait, la dette des chroniques suivantes à l'égard du travail de Pedro de la Vega est évidente, même si les chroniques ultérieures s'enrichissent naturellement de bien d'autres sources. Probablement commandée lors du chapitre général de 1585, la rédaction d'une nouvelle chronique générale incomba ensuite à Juan de la Cruz, également moine hiéronymite. Celui-ci avait pour tâche d'amplifier celle de Pedro de la Vega. Il acheva son travail en 1591, mais celui-ci ne donna finalement pas satisfaction aux autorités de Lupiana, qui est la maison mère de l'ordre, autorité qui était réunie à l'occasion du chapitre général de 1591, et donc l'ouvrage resta inédit. Entre-temps, José de Sigüenza, donc également hiéronymite, avait commencé la rédaction de la Vida de San Jerónimo, qui devait introduire la chronique de Juan de la Cruz. Alors, les incontestables qualités de plume de José de Sigüenza durent probablement achever de convaincre les autorités de Lupiana, qui confièrent donc à Sigüenza, en 1594, la totalité de l'entreprise de rédaction de chronique générale, soit à peu près un an après la clôture officielle du procès inquisitorial que José de Sigüenza a dû souffrir et qui s'est clôturé en 1593, et procès au cours duquel Philippe II est intervenu personnellement en sa faveur. L'entreprise menée par le prieur de l'Escorial fait donc preuve d'une prudente orthodoxie, et dépasse bien sûr de beaucoup le contrat initial en proposant un véritable travail d'historien dans un style particulièrement soigné, ce qui valut à sa chronique, publiée en deux parties, en 1600 pour la première, intitulée « Segunda parte de l'historia de l'Orden de San Jerónimo », segunda puisque la première partie est en fait cette première, cette vie de Saint Jérôme, publiée en 1595. Donc une première partie intitulée « Segunda parte », si je me peux me permettre de le dire ainsi, puis une dernière et troisième et deuxième partie intitulée « Tercera parte », publiée en 1605. Donc, c'est comme je vous le disais, l'entreprise menée par le prieur de l'Escorial, bien sûr, a permis à son ouvrage de connaître une postérité qui n'est pas besoin de rappeler. Ses talents d'écrivain et d'historien expliquent certainement en grande part que l'ouvrage de Fray Juan de la Cruz ait été écarté au profit de l'œuvre de Sigüenza par le chapitre général réuni à Lupiana. Il est aussi possible que l'on ait reproché à Fray Juan de la Cruz de ne consacrer qu'une part insuffisante à l'Escorial, sujet sur lequel, en revanche, Sigüenza donne pleine satisfaction. Alors, ce bref excursus vers la tradition historiographique de l'ordre de Saint-Jérôme permet d'expliquer pourquoi le travail de Fray José de Sigüenza a été ici la seule source historiographique retenue pour cette réflexion sur la représentation du roi. C'est plus précisément cette proximité de la personne du roi, non pas figée dans les poses emblématiques du pouvoir, comme dans un discours épique ou un portrait officiel, mais considérée dans ses gestes familiers, au fil des chapitres, une chronique monastique qui nous posera question. Après un bref rappel de l'histoire de l'ordre des Hiéronymites et de son amitié avec la couronne, l'accent sera mis sur les points suivants. Alors, le portrait du roi en moine hiéronymite, portrait qui, d'une certaine manière, résulte de l'attrait exercé par le modèle hérémitique incarné par Saint Jérôme. Et enfin, pour terminer, la figure du roi souffrant qui transparaît à travers le récit de l'agonie de Philippe II, ainsi configuré au Christ, le roi rappelle jusque dans ses derniers instants son sacerdoce royal. On a là, et on le verra amplement, une tentative non dissimulée de sacralisation de la figure du souverain qui posera question dans un contexte où les diverses entreprises de sacralisation de la figure du prince étaient volontiers battues en brèche par les adversaires de l'absolutisme royal. Donc c'est la question, on va dire, la figure du roi souffrant nous mènera modestement sur le terrain des grands traités, des grands débats politiques du temps. Alors, pour revenir à l'histoire des Hiéronymites, nous sommes appelés évidemment à parler brièvement de Saint Jérôme, docteur de l'Église, contemporain de Saint Augustin, mort en 419 à Bethléem, dans un petit monastère qui n'a guère survécu à sa mort. Comme vous le savez, Saint Jérôme est aussi père de la Vulgate latine et grand exégète. C'est donc la figure par excellence de l'érudit, du philologue versé dans l'étude des Écritures et bien entendu philologue polyglotte, grand connaisseur de l'hébreu, du grec et du latin, et dont la démarche consiste à revenir aux originaux grecs et hébraïques pour proposer naturellement une nouvelle version des Écritures qui va donner la Vulgata Editio, dite Vulgate latine. Alors, très curieusement, et on va le voir tout de suite, bien entendu, l'image de Saint Jérôme telle que la connaît l'Occident chrétien est très variable. Soit on retient de lui l'image du philologue polyglotte, soit on a de Saint Jérôme l'image de l'ermite au désert. Moyennant quoi, et c'est pour la petite histoire, la retraite au désert de Saint Jérôme n'a guère duré que 3 ans, et pour finalement d'ailleurs constater que ce n'était pas forcément sa vocation. Il est en proie à des tentations épouvantables et finalement il choisira le cénobitisme. Il n'empêche que l'imagerie médiévale, puis ensuite l'iconographie postérieure, Renaissance, privilégie volontiers l'image de l'ermite au désert. Toutefois, hein, on le voit aussi volontiers représenté en ermite, pénitent, faisant pénitence dans la familiarité des écritures. Donc cette image n'annule pas non plus celle du philologue érudit. Alors, précisément, saint Jérôme a été célébré tout au long du Moyen-Âge comme père du monachisme. Père du monachisme, bien que, comme je vous l'ai dit, l'expérience à Bethléem ne lui ait guère survécu. Mais contre toute attente, l'intérêt porté à l'œuvre du docteur de l'Église ne s'est accompagné d'aucune fondation depuis, on va dire, le 5e siècle après Jésus-Christ. Le petit monastère de Bethléem n'avait pas survécu longtemps à la mort de son fondateur en 419, et durant des siècles, son héritage spirituel n'a reposé que sur la transmission de son œuvre et des vitae. Vers le milieu du XIVe siècle, après donc un long silence, l'expérience initiée en Palestine par le docteur Maximus séduit en Italie les plus fervents zélateurs de l'idéal érémitique. Se multiplient alors les fondations placées sous son patronage. Le mouvement gagne l'Espagne et y fait ses premiers adeptes qui seront les fondateurs du futur ordre de Saint-Jérôme. Coupé dès lors de sa matrice italienne, l'ordre entame une existence strictement ibérique, consacrée à la vie contemplative et à la liturgie. Saint Jérôme se trouve désormais associé à l'histoire espagnole par un lien spécifique reliant l'idéal du monachisme primitif au très prestigieux ordre des Hiéronymites. Celui-ci est officiellement fondé en 1373 après l'approbation de ses constitutions par le pape Grégoire XI. L'ordre sème ensuite rapidement ses fondations dans toute la péninsule ibérique grâce aux dons de l'aristocratie, aux dons de quelques dignitaires ecclésiastiques, mais aussi bien sûr grâce aux souverains espagnols qui font de lui un ordre prestigieux et très dynamique à ses débuts, ce qui ne fut sans doute pas sans susciter jalousie et convoitise de la part des ordres concurrents. Deux grandes crises vont marquer les deux premiers siècles d'existence de l'ordre, en conséquence de l'attrait exercé par le nouvel ordre sur les judéo-converts et suite à la découverte en son sein de nombreux cas de crypto-judaïsme, l'adoption très précoce des statuts de pureté de sang est votée lors du chapitre général de 1486, après une longue controverse interne. Ça, c'est donc pour la première crise qui va déchirer un temps hein, les moines de l'ordre et opposer défenseurs des judéo-converts et puis les partisans de l'adoption des statuts de pureté de sang. Et enfin, deuxième grande crise. Cette deuxième grande crise survient avec la création au début du XVe siècle d'une nouvelle branche réformée, celle des Isidorites, création qui est le fait du général de l'ordre entre 1418 et 1421, le Hiéronymite Fray Lope de Olmedo. Il crée donc une nouvelle congrégation approuvée en 1428 sur la base d'une nouvelle règle établie à partir des écrits de saint Jérôme. La question étant de savoir si l'idée de réforme est même valable, sachant qu'à ce stade-là, l'ordre qui connaît en fait à peine quelques décennies d'existence n'avait pas particulièrement besoin d'être réformé. Il demeurait bien suffisamment observant pour que la notion de réforme en fait pose question. Tout simplement, Lope de Olmedo a voulu créer une nouvelle branche et se passer de la règle de saint Augustin pour créer une nouvelle règle composée à partir des écrits de saint Jérôme. Voilà. Au cours de son histoire, l'ordre de saint Jérôme a su se montrer l'allié indéfectible de la couronne en offrant l'hospitalité aux souverains espagnols lors de leurs déplacements, en leur prêtant de l'argent lorsqu'ils en faisaient la demande, ou en participant à l'œuvre de réforme du clergé menée par le cardinal Cisneros sous le règne des rois catholiques. Les raisons du succès du nouvel ordre auprès des souverains de la dynastie Trastamare ont déjà été analysées. Les historiens de l'ordre de Saint-Jérôme avancent surtout l'implantation exclusivement hispanique des Hiéronymites et donc aussi sa forte identité nationale, voire nationaliste, pour expliquer ce succès. Dans sa lettre du 20 janvier 1477, adressée aux définiteurs de l'ordre, Isabelle la Catholique insiste sur cette particularité. « Nous voulons, je cite, vous offrir les premiers fruits de notre dévotion pour plusieurs motifs et surtout parce que votre ordre est né et a grandi dans nos royaumes. » En effet, l'implantation hispanique de l'ordre permettait aux rois d'exercer leur autorité sans qu'interfèrent des influences extérieures. Le soutien inconditionnel que les premiers hiéronymites ont apporté aux souverains leur a valu une reconnaissance immédiate, mais aussi de nombreux privilèges et exemptions fiscales. Ces faveurs s'accompagnent de dons accordés aux nouvelles fondations qui jouissent de la protection particulière des souverains. À la suite des souverains de la dynastie Trastamare, les Habsbourg ne failliront pas à cette tradition en offrant généreusement leur soutien. En retour, l'ordre leur sert de réserve bancaire et propose les prêts nécessaires à leur campagne militaire. Mais ces liens matériels ne sont en réalité que la manifestation extérieure de l'amitié spirituelle qui unit l'ordre souverain espagnol. De nombreux hiéronymites ont été confesseurs des souverains. Je peux citer Fray Hernando de Talavera, confesseur et directeur spirituel d'Isabelle la Catholique, Pedro de Béjar, ou encore Diego de Yepes, confesseur de Philippe II, hein, ces trois personnages en étant les meilleurs exemples. Devenu légendaire, l'hospitalité des hiéronymites est offerte au roi et à sa cour itinérante lors de leurs déplacements. La dévotion que les souverains manifestent à l'ordre de Saint-Jérôme tient aussi, comme il a été dit, à la magnificence de sa liturgie. Profitant des maisons et de leurs hospederias reales pour venir s'y reposer et s'y recueillir, les monarques aiment à y vivre les grands temps liturgiques, en particulier le carême, ou fuir les soucis de la vie politique, comme l'illustre la retraite finale et définitive de Charles Quint à Yuste, mais aussi le souhait que Ferdinand le Catholique avait émis, quant à lui, de mourir dans le couvent de Guadalupe. Cette amitié trouve sa consécration sous le règne de Philippe II, lorsque ce dernier fait des hiéronymites un ordre voué à la célébration de la mémoire de sa dynastie. Les raisons profondes de l'attrait exercé par le nouvel ordre sur la monarchie espagnole semblent donc tenir essentiellement au formidable élan réformateur de ses débuts et aux longues heures consacrées au cœur. Ces gages de sérieux et de ferveur expliquent que l'ordre ait su s'attirer la confiance des personnes royales au point d'être tenté par l'aventure érémitique et monastique. C'est du moins l'image que veut nous en donner la chronique de Sigüenza. À en lire Sigüenza, donc, c'est d'une certaine manière l'attrait pour le désert qui convainc Charles Quint, puis son fils Philippe II, de se rapprocher des hiéronymites à la fin de leur existence, selon l'idéal érémitique du retrait du monde. Bien entendu, il s'agit d'un désert en quelque sorte stylisé, hein, et idéalisé. Après avoir évoqué la tentative avortée de Ferdinand le Catholique de mourir dans le couvent hiéronymite de Guadalupe, bien qu'il en eût exprimé instamment la volonté, c'est donc sur les derniers instants des deux souverains Habsbourg que l'auteur choisit de s'étendre, privilégiant dans l'histoire des rois, selon un parti pris délibéré d'humilité, ce qui se rattache non à leur gloire militaire ou politique, mais à l'esprit de pénitence dans lequel ils vécurent la fin de leur vie. Sigüenza met ainsi au compte des hauts faits de l'empereur la décision de choisir le désert du couvent. Alors je cite donc un extrait de la tercera parte, le chapitre 37, c'est la première citation que vous avez sous les yeux. A mí no me toca tratar de las hazañas gloriosas, lo que me cabe por suerte y buena dicha es esta postrera hazaña con que el emperador Carlos V, con tanta gloria y tan admirable ejemplo, venció este enemigo tan fiero, que tan sin respeto los derriba a todos, deshaciéndose de su imperio, estados, reinos, desnudándose de todo, renunciando tanta majestad, gloria, mando, respeto, adoraciones, servicios y aún regalos, retirándose del mundo en un desierto, en compañía de unos pobres religiosos, a acabar el curso de la vida. Historia será breve, llana, humilde, de piedad llena y del talle mismo que aquella majestad grande quiso ponerse. Donc on a bien sûr ce mouvement de balancement entre les gloires passées évoquées à travers une longue énumération et le dépouillement du présent, hein, desnudándose de todo, évoqué ici à travers l'image du désert, hein, et bien entendu le mode de rédaction de la chronique en ce qui concerne le souverain, en l'occurrence ici Charles Quint, s'en ressent puisqu'il s'agit d'une historia humilde. Hein, et vous verrez que cette affirmation récurrente sous la plume de Sigüenza. Alors, certes, la longue amitié unissant l'ordre à la couronne espagnole a dû motiver en grande part le choix de l'empereur de finir sa vie dans le monastère de Yuste. Mais son adhésion au modèle érémitique incarné par Jérôme, auprès duquel il demande à être présenté en tenue de pénitent dans le vaste rétable dédié aux saints, cette adhésion au modèle érémitique dénote, hein, une dévotion profonde pour le patron de l'ordre. Décrivant la geste d'un ermite idéalisé qui reproduit en tout point celle du moine de Bethléem, Fray José de Sigüenza évoque en détail les lectures pieuses de l'empereur. Acabada la comida, entraba luego con un libro el mismo confesor, qui n'était autre que Fray Juan Regla. De ordinario era San Bernardo o una epístola de San Jerónimo. Leíala un poco y parlaban sobre ello un rato, que no le parecía que era inconveniente sobre la comida, como no lo es hablar de otras cosas que se lleva el viento, y aún peor. Charles Quint occupe sa retraite à la lecture des grands-pères du monachisme, Saint Bernard et bien sûr Saint Jérôme, lesquels le confortent dans son désir de s'éloigner du monde au profit d'une plus grande ascèse intérieure. Non sans raison, le chroniqueur Prudencio de Sandoval ponctue d'ailleurs son propre récit de la mort de l'empereur par cette phrase qui donne le sens ultime de son séjour à Yuste. Falleció el emperador a 21 de septiembre de 1558 en aquel monasterio de Yuste, como si todos los días de su vida hubiera vivido en aquel yermo. Le caractère exemplaire de la retraite de l'empereur à Yuste, qui réactualise l'époque bénie des pères du désert, a été souligné avec raison par Alain Saint-Saëns. Le modèle érémitique, qui est au cœur des sensibilités religieuses du XVe et du Ier XVIe, revêt en effet un nouveau sens historique à travers la personne de l'empereur. Car en s'installant à Yuste, Charles Quint relie à son époque l'idéal incarné par Saint Jérôme, choisi entre tous les pères comme image par excellence de l'ermite au désert. Cet attrait symbolique pour le désert a aussi sans conteste son importance dans le choix philippin de faire construire le palais monastère de l'Escorial à l'écart des bruits de la cour et au plus près de la vie conventuelle. Vous avez donc la citation de la page 2. Miró el rey donde estaría bien asentada la fábrica que traía en su pecho. Pretendía siempre que fuese propia casa de San Jerónimo, que estuviese fuera y aún lejos de poblado, donde los religiosos ni tuviesen quien nos estorbase la quietud de su contemplación, y cuando él quisiese retirarse del bullicio y ruido de la corte, el lugar mismo le ayudase a levantar el alma en santas meditaciones, de que no tenía poco ejercicio y gusto. Pour politique qu'il fût, le choix de placer l'ordre de Saint-Jérôme à l'Escorial ne relève donc pas seulement de la volonté de s'inscrire dans une tradition ouverte par ses prédécesseurs, car, comme le suggère l'historien Tormo y Monzó, Philippe II fut peut-être lui-même prisonnier, comme il le dit, d'un nom magique, celui de Saint-Jérôme. De fait, l'on pourrait reconsidérer, alors c'est là une construction intellectuelle, hein, je vous l'accorde, on pourrait reconsidérer l'ensemble de l'édifice en fonction non pas de son inscription sous le patronage de Saint-Laurent, choix qui n'est finalement que calendaire, mais en fonction plutôt de son rattachement à Saint-Jérôme. Qui est à la fois figure, comme je vous le disais, de moine et d'érudit, et qui coïncide de par ces différents aspects, qui coïncident en tout point au projet attaché à la fabrique royale, considéré à la fois comme lieu de culte, de savoir et de pénitence. Alors, je ne suis pas la seule à avoir élaboré cette construction intellectuelle, puisqu'en fait, Sigüenza lui-même y a pensé, et c'est plutôt de Sigüenza que je m'inspire que de mes propres fantaisies. Vous avez là la troisième citation, que je ne lirai pas parce qu'elle est un petit peu longue, qui est tirée justement de la Vida de San Jerónimo, où Sigüenza ose ce rapprochement et l'utilise comme argument pour démontrer que Saint Jérôme est au bout du compte un saint espagnol. Donc, plus encore que dans tous les monastères répandus sur la péninsule, le monastère de l'Escorial incarne, selon Fray José, cet idéal des lettres sacrées qui définit si bien la culture monastique, comme l'a bien rappelé Don Jean Leclerc, puisque réunissant à la fois l'écriture sainte et la tradition patristique, ces lettres sacrées servent toutes les manifestations de la culture monastique, à savoir la liturgie en premier lieu, mais aussi l'exégèse et la théologie scolastique et positive. Alors, comme ça a été souligné précédemment, le parti pris de l'auteur de la Historia del Orden de San Jerónimo est de ne représenter le roi qu'entre les murs de l'ordre, autrement dit lorsqu'il est invisible pour les autres. Telle serait alors la fonction de l'acte de représentation qui, suivant la définition donnée par Furtière, consiste à rendre présente une absence en l'enfermant, je cite, dans un récit qui est son tombeau subsistant à jamais. Ce même récit qui s'empare de la personne du roi invisible au reste du royaume a donc soin de justifier la quasi-absence de référence à la personne visible et épique du monarque au profit d'anecdotes. Le terme menudencias revient ici fréquemment, donc d'anecdotes ou de scènes quotidiennes. Et régulièrement, Sigüenza ponctue ses incises et ses anecdotes de réflexions telles que « A mí no me toca escribir otras hazañas de este rey, sino estas de su devoción y piedad. » Le récit ne s'intéresse donc à la personne du roi que lorsque la clôture se referme derrière lui. De Charles Quint, nous ne connaissons que certaines décisions politiques touchant aux intérêts de l'ordre jusqu'à son entrée au monastère de Yuste où il a décidé de finir ses jours. Y hace de estimare mucho que en el pecho de un príncipe tan valeroso y belicoso tantos años antes y en medio de tantas guerras, victorias y triunfos estuviesen tan asentados estos pensamientos de renunciar tanta gloria y monarquía. Desde entonces, dice Sigüenza, le cuento yo por religioso y en un ánimo tan determinado y firme por profeso, moine profes. Les hauts faits de l'empereur ne sont cités que pour faire mesurer l'ampleur de son renoncement en entrant dans l'ordre de Saint-Jérôme, où il fut complaisamment inscrit en tête de la liste des professes de Yuste. De la même façon, il est vraiment question de Philippe II qu'au moment où il meurt symboliquement au monde en s'enfermant dans le palais monastère de l'Escorial. Les descriptions des cellules de Charles Quint et de son fils Philippe II sont à ce titre significatives. Elles convergent en effet toutes deux vers le même paradoxe consistant à enserrer la grandeur du prince dans l'étroitesse de la cellule. S'agissant de la cellule de l'empereur, on peut lire la réflexion suivante. « Esta es la celda de aquel gran monarca Carlos V, para religioso harto espaciosa, para quien tanto abarca pequeña. » À propos de la cellule de Philippe II, on lit la réflexion suivante. « El adorno de estas piezas o de esta tan honrada celda es harto sencillo y llano. Otras hay más bien enderezadas en la casa que parece no venía aquí a ser rey, sino religioso de los muy observantes. » La conception générale du monastère de l'Escorial, que Philippe II élabore à la fois, comme vous le savez, comme palais, lieu de retraite personnelle, monastère, panthéon royal et temple du savoir, cette conception générale donc ne répond pas à une autre idée, c'est-à-dire qu'elle renforce cette idée de clôture et d'enfermement de la personne du roi. Car s'il n'est rien dans l'ordre de Saint-Jérôme qui n'appartienne à la couronne, ce rapport inclusif se vérifie aussi en sens inverse. Le roi Philippe II se trouve inclus dans l'ordre, pris entre les murs de la clôture, comme le montre une étrange comparaison utilisée par Fray José de Sigüenza dans la troisième partie de son Historia de l'Orden de San Jerónimo lorsqu'il décrit la fondation du monastère. Selon la tradition antique qui présidait à la fondation des nouvelles cités, les contours étaient préalablement tracés par un bœuf et une vache attelés ensemble pour dessiner le plan de la future ville. La vache étant placée à l'intérieur de la ligne et le bœuf à l'extérieur. C'est ce procédé que récupère Fray José pour souligner la complémentarité de son ordre et de la couronne. Así le ha acontecido esta nueva fundación y colonia santa del monasterio de San Lorenzo que con la feliz junta del católico rey Don Felipe y la religión de San Jerónimo. Donc il glose bien sûr cette image en rapprochant en un attelage pour le moins étonnant le roi Philippe II et la religión de San Jerónimo. En lo de dentro en costumbres santas, buen ejemplo, vida espiritual, letras, multitud y buena crianza de hijos. Ella se ha dado buena maña y en lo de fuera, en grandeza, majestad, fortaleza, hermosura y perfección, hace raya entre lo mejor que conocemos por el fuerte amparo y brazo de su fundador. Le sillon qui délimite symboliquement les contours du futur palais monastère est une véritable ligne de partage entre les signes du féminin et du masculin, la vache et le bœuf, intériorité et extériorité, vie cachée et ostentation, recueillement et propagande. Cette dichotomie n'existe pas tant pour l'ordre de Saint-Jérôme, destiné par sa règle et ses constitutions au cénobitisme et donc à la rupture avec le monde, pas tant donc pour l'ordre de Saint-Jérôme que pour la fondation royale et par extension pour la personne du roi. Il existe, pour expliciter les choses, il existe ainsi un roi extramuros, connu pour ses hauts faits des vertus. Il existe ainsi un roi extramuros, connu pour ses hauts faits et des vertus visibles, à l'image du palais de l'Escorial, dont le renom s'étend sur toute l'Europe. Y en lo de fuera, majestad, fortaleza, hermosura y perfección. Donc, d'un côté, un roi extramuros, et de l'autre, un roi intramuros, aux vertus plus grandes encore, mais invisibles aux yeux du monde. Dans les livres 3 et 4 de la troisième partie de sa chronique, le père Sigüenza offre à ce propos une description apologétique des efforts accomplis par le monarque espagnol pour se plier à l'ascèse des moines hiéronymites. Par effet de contagion, le monarque, qui incarne mieux que quiconque l'idéal de pénitence de Jérôme, devient ainsi pour les moines de l'ordre un modèle de sainteté. Sigüenza nous dit lo siguiente. Aunque todos habían mamado en la leche de sus madres santas y buenas costumbres, la presencia y la modestia de un tan modesto y santo rey, así me atrevo a llamarle, era bastante a criar de nuevo religión, aún en almas muy distraídas. La famille hiéronymite peut donc s'enorgueillir de compter le roi prudent parmi ses membres les plus observants. L'engagement du monarque espagnol auprès de la communauté de l'Escorial ne se borne donc pas simplement à pourvoir à ses besoins matériels. À la lecture de Sigüenza, il semble que le souverain ait souhaité tout à la fois prolonger un lien qui avait été cher à son père, mais aussi s'associer à la prière continue du monastère. Et donc, c'est en quelque sorte le portrait spirituel du roi que brosse la chronique hiéronymite. Un portrait spirituel qui résume en un bref catéchisme l'ensemble des vertus théologales et cardinales, ainsi que certains dogmes fraîchement définis par le Concile de Trente, nous rappelant ainsi qu'une théologie est toujours investie dans le discours hagiographique. S'agit-il précisément d'une hagiographie du roi ? Dans une certaine mesure, on serait tenté de répondre par l'affirmative, parce que plusieurs livres de l'Historia de l'Orden de San Jerónimo s'attachent à raconter la vie des premiers fondateurs et des moines exemplaires de l'ordre, même si, pour la petite histoire, aucun hiéronymite dans l'histoire n'a été canonisé. Il n'empêche qu'on a, au fil des chroniques conventuelles ou chroniques générales, un nombre incroyable de vies de santos varones de l'ordre qui supplée à ce manque. Il y a toutefois une cause qui a été instruite, mais pour l'instant sans succès. La narration fait en effet une très large part à ces vies qui sont toutes écrites selon les canons du récit hagiographique. Héroïsme des vertus, persécutions souffertes patiemment, miracles éventuels, édification de l'entourage et sainte mort. À la suite de ces saints moines, dont pourtant aucun ne fut canonisé, comme je vous le disais, le roi deviendrait également un santo baron, dont la sainteté exemplaire serait un modèle imitable pour toute la communauté des moines. Mais quels sont les signes d'une possible sainteté de Charles Quint ou de Philippe II ? Charles Quint se comporte en parfait moine hiéronymite, suivant la liturgie des heures malgré les douleurs infligées par la goutte, écoutant prêches et leçons d'écriture sainte comme les autres moines, ou encore se donnant la discipline le vendredi saint comme le reste de la communauté. Il n'est que le jeûne qu'il ne puisse observer rigoureusement pour des raisons de santé. La religiosité de Philippe II est sensiblement la même que celle observée chez son père, même si elle fait l'objet de plus amples descriptions. On le voit ainsi assister aux offices, dans le chœur auprès des moines, ou depuis sa chambre qui donne sur le maître-autel. Il reçoit les cendres le jour du mercredi des cendres, assiste à tous les offices de la semaine sainte, se confesse et communie le jour de Pâques, instruit religieusement le jeune enfant, futur Philippe III, et participe, actement symbolique, au lavement des pieds du jeudi saint, appelé le mandato. Les signes extérieurs de piété, qui sont pourtant l'apanage de tout moine fidèle à la règle, suscitent une très vive impression parmi les témoins oculaires. Plus d'un moine a les larmes aux yeux de sentir le roi prier avec la communauté dans le cœur. Forzosamente estaban hombro con hombro. Plus d'un moine s'en trouve édifié. Sigüenza parle ici en son propre nom. Testigo soy de vista, hasta la fin de la page 2, y muchos de los que hoy aquí vivimos, que con hacer grandísimo frío, estuvo el pijísimo y católico rey todo el tiempo que duró el invitatorio y el himno, hasta el primero salmo en pie, sin arrimarse y descubierta la cabeza con tanta compostura y serenidad, que no sé yo si hubo algún religioso que pudiese sufrir otro tanto. Confieso que me avergoncé y corrí de mi tibieza, y que después acá me ha servido de despertador tan grande ejemplo de un monarca criado, en fin, en majestad y regalo. Comme dans tout récit hagiographique, les vertus appartiennent à l'ordre du visible, sont même haussées à un degré d'extrême visibilité. Ce discours de vertu, pour reprendre une expression de Michel de Certeau, n'existe toutefois qu'en raison de la présence de témoins oculaires, les moines hiéronymites en l'occurrence, qui, en contrepoint du panégyrique royal, laissent apparaître leurs propres insuffisances. Du fait de sa piété, le prince maintient ses sujets éveillés et attentifs. Littéralement, il joue auprès d'eux le rôle de réveil, ou du réveil, despertador, dans le sens moral qu'Antonio de Guevara donne à ce terme dans son Aviso de Privados y Doctrina de Cortesanos, lorsqu'il décrit l'ouvrage comme Despertador de Cortesanos, autrement dit, un ouvrage destiné à réveiller les courtisans de la vanité où ils se sont endormis, sens que l'on retrouve bien sûr aussi induit dans le célèbre Reloj de Principes. Ce discours de vertu permet donc de forger l'image d'un prince qui doit, par son exemple, prémunir les moines d'un possible attiédissement et garantir une rigoureuse observance, à l'image de ce que représente un saint patron pour son ordre, mais aussi tel que doit être un véritable prince chrétien. En cela, le roi prudent peut-il aussi servir de despertador aux autres souverains chrétiens? Y no les está mal a los reyes cristianos tener noticia de ello, para que se reverencien y estimen las ceremonias eclesiásticas, pues los reyes paganos y gentiles no se desdeñaban de sus torpes y brutas ceremonias y de sus sacrificios, y aún se preciaban del nombre de pontífices máximos, con no ser más todo aquello que un hediondo rastro carnicería. Donc après avoir évoqué justement ces princes païens qui étaient capables de religiosité, le texte évoque la fête spirituelle qui est offerte aux souverains qui suivent la liturgie depuis leur oratoire. Et Sigüenza d'en conclure que « Esto estiman en poco y aún burlan de ello los hijos de este siglo, pareciéndoles que no es de reyes ver esto, sino de sacristanes, y los reyes que sean todo justas, torneos, toros, cazas y otros ejercicios que no huelan nada a Dios ni al cristianismo. » Au roi amateur de plaisir, de joutes ou de parties de chasse, Sigüenza oppose ainsi la piété du roi prudent. Toutefois, cette image est loin de faire l'unanimité. Le moine hiéronymite Fray Lucas de Alaejos, qui sera lui-même prieur de l'Escorial et qui succédera à José de Sigüenza en tant que bibliothécaire de l'Escorial, donc Fray Lucas de Alaejos, contrairement à Sigüenza, nuance beaucoup plus l'image du roi moine dans ses oraisons funèbres prononcées à l'occasion des anniversaires de la mort du fondateur de l'Escorial. Dans un sermon datant de 1604, Alaejos n'hésite pas à rappeler que Sa Majesté avait été tellement moine que le monde du dehors s'était gossé de ce mode de vie si monacal. « Fue tan fraile que el mundo de allá afuera ha hecho conversación y mofa de tanta frailía. » Deux questions se posent donc. La première consistant à savoir s'il existe un intérêt non avoué qui expliquerait la présence de ce panégyrique royal tendant à la géographie dans la chronique d'un ordre religieux. S'agit-il en définitive d'ajouter un santo varón de plus à l'ordre de Saint Jérôme, en donnant ainsi à l'histoire de l'ordre un surcroît de prestige, alors que les autres communautés religieuses tentent aussi de prouver soit leur ancienneté, soit leur grandeur en publiant leurs chroniques? Première hypothèse. La seconde question, ou seconde hypothèse, contient déjà sa propre réponse. En quoi le mode de vie semi-monastique adopté par Philippe II, et déjà avant par son père Ayuste, en quoi ce mode de vie est-il exemplaire pour des moines rompus aux exercices de piété? Selon Sigüenza, c'est la démesure d'une telle grandeur soumise aux limites d'un couvent, à une proximité qui l'abaisse et l'humilie de la même façon que le Christ s'est humilié en prenant la condition d'homme. C'est donc cette démesure et ce mouvement d'humiliation qui est exemplaire, en rappelant constamment, par le simple fait d'être là, le mouvement de la kénose. Le mouvement de la kénose qui, en théologie, est ce mouvement d'abaissement propre à l'incarnation. Effectivement, on le voit très clairement lors du lavement des pieds, l'abaissement du roi fait de lui le double temporel du Christ lui-même. Estaba mucho llorando, nous dit Sigüenza, viendo en espíritu en el retrato de aquel rey temporal la humildad y la caridad ardiente de aquel rey eterno que vino a lavar las culpas de los hombres y a juntarlos a sí mismo para que muriesen con él y con él resucitasen. Philippe II n'est pas un simple laïc. Dans son portrait moral se lit le visage de celui qui possède la vraie royauté parce qu'il s'est aussi fait serviteur. Il rappelle la vie du Christ jusque dans la pauvreté et la précarité de sa maison, au premier temps de la construction du monastère, bien sûr, hein, pauvreté que Sigüenza n'hésite pas à comparer à l'étape de Bethléem. Le roi et le Christ ont en commun, effectivement, d'avoir une double nature. L'un est à la fois corps politique et corps individuel, l'autre à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alors, vous connaissez tous les travaux d'Ernst Kantorowicz sur les deux corps du roi, qui ont justement fait apparaître les fondements théologiques et politiques de cette théorie de la double nature du roi. Hein, selon Kantorowicz, c'est précisément parce que la dignité doit être immortelle qu'entre en scène tous les artifices de la représentation. Le corps mortel prête alors ses qualités particulières à la dignité pour lui assurer ainsi sa pérennité. Cependant, on ne peut appliquer ici ces thèses hein, au cas espagnol sans risquer d'en déformer les principales caractéristiques. Il existe bien en effet, je crois que c'est un des seuls cas, le traité du Valencien Folio Seriol qui reprend à son compte l'image médiévale des deux corps du roi, mais dans un sens bien différent, pour distinguer sous l'influence de Machiavel la personne privée et la personne publique du prince, opérant ainsi une fracture entre l'éducation du prince et l'exercice du pouvoir qui relève uniquement de la personne privée, de la personne publique. Donc, il opère une fracture, j'étais pas claire, entre la personne privée et la personne publique du prince, et une fracture qui est aussi marquée entre l'éducation que reçoit le prince comme personne privée et l'exercice du pouvoir qui lui relève uniquement de la personne publique. Cette théorisation est cependant un cas isolé en Espagne et s'accompagne d'une vision absolutiste du pouvoir, une forme de despotisme éclairé avant la lettre, selon l'expression d'Alain Milliou, très en avance sur son temps. La pensée politique, si on peut s'exprimer ainsi, de Sigüenza s'inscrit quant à elle dans le droit fil des idéaux de la monarchie catholique. En l'absence d'une véritable théorisation de l'absolutisme, contrairement au cas français, la sacralisation du monarque catholique permet de justifier un absolutisme de fait, mais certainement pas un absolutisme théorisé, hein, car comme vous le savez, le rôle du prince répond en Espagne aux définitions héritées des pères et de la scolastique, et pour ne donner qu'un exemple, hein, elles ont été fort bien résumées par le jésuite Rivadeneira dans son fameux traité en réponse aux thèses de Machiavel et des politiques français, lorsqu'il décrit le roi comme représentant ou encore vice-roi et lieutenant de Dieu sur terre, faisant de lui hein, l'intendant d'un pouvoir qu'il reçoit de Dieu. Autrement dit, il pose ainsi les limites de la force séculière en décrivant hein, les conditions d'une royauté conditionnelle. Donc bien entendu, la sacralisation, et c'est toute l'ambiguïté de ces textes, la sacralisation du monarque n'est vraiment pas à lire dans le sens d'une affirmation de ou d'une défense de l'absolutisme, mais va subtilement quand même dans le sens hein, d'une affirmation d'un absolutisme, je dirais, de fait. L'identification du roi au Christ n'est donc pas à comprendre chez Sigüenza comme une dissociation du corps du roi en deux corps distincts, l'un naturel et l'autre éternel, selon le modèle offert par Kantorowicz, mais comme une sacralisation de toute la personne du roi au moyen du symbolisme messianique. Et c'est là le point que nous allons aborder à travers les trois aspects suivants. Pour commencer, la description du corps souffrant du roi et ensuite le développement de l'idée de sacerdoce royal, en particulier à travers la métaphore architecturale. Il est intéressant de constater la place occupée dans le récit par la description d'un roi montré dans son humanité la plus banale ou sa déchéance la plus poignante. La multiplication des détails, parfois truculents et triviaux, concernant le séjour de Philippe II à l'Escorial ou celui de son père à Yuste, peut en effet surprendre. Il s'agit là d'un parti pris délibéré de l'auteur qui ne consigne par écrit que les menus faits advenus entre les murs du cloître. Après avoir souligné que Charles Quint coupait lui-même ses aliments, bien qu'il eût les mains ainsi que les dents en mauvais état, Sigüenza se justifie dans le commentaire suivant. No puedo no menudear en esta historia, y pues los que tratan de las cosas temporales de este príncipe no tienen por menudencia decir lo que hizo por su persona en las guerras, ¿por qué no se escribirán las que aquí tenemos entre manos, tanto más provechosas y de mayor ejemplo y aún de mayor grandeza? En quoi l'extrême humanité du roi peut-elle être édifiante et comment le texte emploie-t-il à souligner cette exemplarité, si ce n'est à la fonder? Les discours 20 et 21 de la tercera parte de la historia de San Jerónimo, de l'ordre de San Jerónimo, les discours 20 et 21, qui retracent en détail les dernières heures de Philippe II, la última enfermedad y feliz muerte del rey don Felipe II, el tránsito y muerte de Felipe II. Ces discours sont ceux où le corps mortel du roi se donne le plus à voir. Et c'est la raison pour laquelle nous n'évoquerons ici que les derniers instants de Philippe II, délaissant à dessein le récit de la mort exemplaire de l'empereur. On n'exagérera pas en disant que le corps du roi envahit complètement l'espace du récit, un corps outragé par la maladie et la souffrance, humilié surtout par un excès de paraître. Después de haberle fatigado siete días continuos las fiebres, asado y consumido del fuego maligno que le tenía ya en los huesos, arrojó en el muslo, encima un poco de la rodilla derecha, un apotegma de calidad maligna, que fue creciendo poco a poco con dolores muy grandes. Je vous passe les détails les plus truculents. Mais le narrateur a soin d'opposer à cette hubris, on va dire, un excès non plus corporel mais spirituel, exprimé dans la réponse du roi à cette souffrance. Hein, en quelque sorte, ce corps en pleine déchéance est le lieu et le moyen de la rédemption spirituelle du roi. No vení en estas llagas por sola la fuerza del mal humor corrompido, sino enviados de aquella mano que usa de todo lo criado como de instrumentos, como se hace su voluntad. Sentíalo así el buen Felipe, y levantando los ojos, decía con la boca y con el corazón aquellas ternísimas palabras que dijo su rey y señor en el huerto: Pater, non mea, sed tua voluntas fiat. Hein, à la maladie dont les conséquences sont bien visibles, répond donc ici l'offrande invisible de sa souffrance. Le roi prudent est donc ici, comme le Christ incarné, l'instrument de Dieu, hein, selon la conception de saint Thomas d'Aquin, qui considère que, qui, en considérant les deux natures du Christ, estime que le Christ incarné est justement l'instrument de la divinité. Hein, humanitas instrumentus divinitatis. Donc, le roi prudent, à l'image du Christ incarné, est l'instrument de Dieu. Car comme le Christ, il abandonne sa volonté au Père. Ce corps montré dans sa déchéance, haussé à un degré d'extrême visibilité, est un corps où s'inscrivent les signes d'une royauté paradoxale, celle qui précisément n'est pas de ce monde. Es forzoso decir, fueron todos estos males enviados de Dios, o digámoslo así, piedras preciosas para el adorno de la corona de otro mayor reino. Trop montrer le corps du roi dans ses défaillances, c'est aussi laisser entrevoir cet autre règne temporel semblable au royaume du Christ. Peut-être est-ce ce mystère que Charles Quint lui-même avait voulu éprouver en sa chair, en dissociant par la fiction des funérailles anticipées ce qui en lui était encore lié. Il avait assisté lui-même à ses propres funérailles. C'est ce que raconte Sigüenza très bien dans sa chronique. Sans avoir recours à ce simulacre, Philippe II se prépare non seulement à mourir, mais aussi à vaincre la mort comme le Christ. Il nous dit « Parece que aún quiso reinar y enseñorearse sobre la muerte ». Même défaillant, surtout défaillant, le corps du roi annonce une double rédemption. La sienne propre, mais bien sûr aussi celle de la monarchie catholique, figée dans son éternité à l'image des rois et des reines du panthéon royal. Alors, vous allez me dire, on a comparé, existe-t-il d'autres comparaisons que celle du Philippe II avec la personne du Christ? Effectivement, on en trouve d'autres, en l'occurrence des comparaisons avec Job, hein, qui apparaissent assez longuement sous la plume de Sigüenza, mais ne nous y trompons pas. Le roi ne peut s'identifier pleinement à une figure vétérotestamentaire, hein, comme celle de Job, parce que celle-ci n'a pas été éclairée par la révélation. Donc, de fait, on constate que si Sigüenza ose des rapprochements ponctuels entre Philippe II et Job, il n'hésite pas à discuter la valeur des souffrances de l'un et de l'autre, leur degré de soumission, leur royauté respective, à supposer d'ailleurs que Job fût roi. La couche du roi nauséabonde excède de loin l'horreur du tas de fumier de Job. Ce dernier n'est-il pas simplement posé sur son tas d'immondices, contrairement au monarque qui, lui, s'y trouve enfoui ? Bon, donc toutes ces comparaisons et la limite, si vous voulez, de la comparaison avec Job, bien entendu, renforce la configuration au Christ. Le regard de Sigüenza est surtout conforme à la tradition médiévale qui veut que la royauté et le sacerdoce du Christ se reflètent aussi chez ses vicaires, c'est-à-dire en l'occurrence chez le roi et l'évêque. C'est ce sacerdoce royal du Christ que représente le roi lorsqu'on le voit assister aux offices liturgiques, et nombreuses sont les descriptions, ou baiser encore les mains du prêtre qui a ici le bonheur d'être l'auteur lui-même. En voulant embrasser des reliques, le roi embrasse les mains qui les portent. Le texte commente ainsi la scène. Y creo que con esto quería hacer dos obras santas, mostrando no estimar en menos las manos donde se consagra Jesucristo que aquellos huesos fundas en tiempo de las almas que fueron aquí templo del Espíritu Santo. La dévotion du roi porte analogiquement sur deux absences. Il s'agit plus exactement d'une dévotion de la trace laissée par l'hostie consacrée sur les mains du prêtre et de la trace laissée sur des fragments de matière par l'âme qui les habitait. Par ce geste de dévotion se trouvent scellés les pouvoirs spirituels et temporels, le prêtre et le roi. Cette union du sacerdoce et de la royauté est bien sûr aussi signifiée par l'emplacement dans la chambre du roi donnant sur l'autel du sanctuaire, aspect bien connu de l'historiographie, et selon d'ailleurs Tuecagoitia, ce vis-à-vis est moins la marque d'un souci spirituel que finalement la revendication d'une place qui revient de droit au roi, suivant une hiérarchie de valeurs bien précise. Et donc, puisqu'on parle d'espace, venons-en à la métaphore architecturale, puisque le roi n'est pas seulement représenté dans sa personne, mais aussi à travers les œuvres qui le prolongent et qui en sont en quelque sorte sa représentation par métonymie. L'Escurial est une partie de ce tout que forment le roi et son royaume. La métaphore architecturale range ainsi Philippe II parmi les grands bâtisseurs de la tradition judéo-chrétienne à la suite des rois de l'Ancien Testament, mais aussi du Christ qui, en accomplissant les Écritures, devient le roi véritable de la Nouvelle Alliance. En ce sens, le roi prudent serait aussi le nouveau Salomon ou le nouveau David de la monarchie catholique espagnole. En tant que tel, il est aussi le bâtisseur d'un temple qui est le pendant du temple de Jérusalem. En écho au traité espagnol du XVIe siècle qui, très couramment, font de Tolède un deuxième umbilicus mundi, c'est-à-dire le nombril du monde, et qui font de l'Espagne une nouvelle terre sainte, le messianisme politique de Philippe II opère aussi sur le plan architectural en associant l'Escorial et le temple de Jérusalem. En insistant sur le symbolisme messianique du palais monastère, Sigüenza se fait aussi acteur de la grande propagande du règne de Philippe II et réfute systématiquement toute rumeur négative sans crainte de tomber dans un certain manichéisme opposant le malin et les desseins inspirés du monarque. Mais il n'est pas nécessaire ici de s'étendre davantage sur cette question déjà abondamment traitée dans les différentes publications sur l'Escorial et qui reprennent d'ailleurs très fréquemment l'héritage, le témoignage de Sigüenza. Nous convoquerons donc plus spécifiquement l'avis de Sigüenza sur un seul point, qui est peut-être moins connu. Il s'agit de la polémique opposant Arias Montano et ses disciples Pedro de Valencia et Pablo de Céspedes à deux jésuites, Jerónimo del Prado et Juan Bautista Villalpando, à propos de la description du temple de Salomon. L'enjeu que je résume ici étant de savoir à quelle description rattacher ensuite la fabrique de l'Escorial, sachant que qu'opère le rapprochement entre l'Escorial et le temple de Salomon, le temple de Salomon étant décrit, comme on va le voir, en deux endroits, en différents endroits des Écritures, soit dans le livre des rois et dans les chroniques, soit à travers une vision d'Ézéchiel. Or, la question est donc de savoir à quel lieu scripturaire se rattacher. Faut-il, comme le soutiennent les deux jésuites précédemment cités, considérer la vision d'Ézéchiel comme la source qui offre la description la plus authentique du temple de Salomon ? Ou au contraire, N'est-ce pas dans le livre des rois, vous trouverez ça dans le premier livre des rois, chapitre 6, et dans les chroniques, qu'il faut chercher la source véritable, comme le soutiennent à leur tour Aliage Montano et ses disciples. En faisant allusion au temple de Salomon, Sigüenza entend mettre un terme aux polémiques. Selon lui, la construction de l'Escorial est au moins équivalente au temple de Salomon, tel qu'il est décrit non pas dans Ézéchiel, comme le prétendent les jésuites, mais dans le livre des rois et des chroniques. Sans grande surprise, puisque Sigüenza est un grand et fidèle disciple d'Arias Montano, et donc qui s'inscrit bien sûr dans son héritage. Il nous dit donc « Lo primero que quiero asentar o presuponer, y para mí es muy cierto, es que el templo de Salomón y el que el profeta Ezequiel pinta, cuyas medidas le mostró el ángel en visión, son tan diferentes como el cielo y la tierra. Y es muy pequeña esta comparación, pues son tan diferentes como el cuerpo y el espíritu, y tan distantes como los dos arquitectos Salomón y Jesucristo. Il y a entre les deux temples, celui d'Ézéchiel ou celui du livre des rois, la même différence que celle qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament, celle qui existe entre les anciens prophètes et le Christ venu accomplir les Écritures. La construction du palais monastère multiplie les proportions initiales du temple de Salomon, de la même façon que le corps du Christ, temple véritable détruit et reconstruit en 3 jours, est une métaphore amplifiée du temple de Jérusalem. Cet effet de multiplication est pris fort au sérieux par Fray José de Sigüenza, qui n'hésite pas à se lancer dans un subtil calcul de proportions pour montrer que le temple de Salomon, décrit par le livre des rois, est à peu près équivalent, mais inférieur tout de même, à l'Escorial. Aquella construcción, donc celle du temple de Salomón, se hizo en 7 años. Esta en 38, que poco menos, si se multiplica y reduce la gente que aquí se ocupaba en todas las partes, y se igualan y proporcionan unas con otras, y ponen el suplemento y ventaja de bueyes a hombres y las distancias, hallarán los que lo miraren con prudencia, que no se llevan mucho las fábricas, y que todo se reduce a la riqueza del oro y al modo de proceder en la fábrica. L'inscription de l'Escorial dans ce que l'on pourrait appeler une généalogie architecturale directement rattachée aux Écritures est bien sûr à mettre au compte du biblisme enseigné et pratiqué par Arias Montano à l'intérieur même du monastère. L'étroit système de correspondance entre symbolisme architectural et écriture sainte orchestré par le génie d'Arias Montano suffit à dire le sacerdoce royal de Philippe II. Car la fabrique de l'Escorial sert en elle-même à le révéler et à dire son sacerdoce royal. Alors, pour conclure, si l'on s'en tient aux seules pages concernant Philippe II, qui sont de loin les plus abondantes dans l'Historia de l'Orden de San Jerónimo, en ce qui concerne la place accordée à un souverain, et si on compare bien sûr ces pages avec celles réservées aux autres monarques. Si l'on ne s'en tient qu'à ces seules pages, on peut dire, donc pour conclure, que la représentation du monarque proposée par Fray José de Sigüenza se fonde essentiellement sur la figure du Christ souffrant et rédempteur. Ce long récit de la Passion du roi reprend un thème devenu classique au XVIe siècle en Espagne, celui du roi souffrant et du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le grand hébraïsant Cipriano de la Huerga développera lui-même généreusement ce thème dans un sermon prononcé à l'occasion de la proclamation de Philippe II comme roi de Castille. Une voix cependant s'élèvera contre cette lecture sacralisante. Dans Los Nombres de Cristo, Fray Luis de León refuse à l'inverse de prêter au roi la force d'endurer tant de souffrances. Il nous dit avec une certaine ironie « En el no saber padecer tienen puesto lo principal del ser rey ». Les rois ne savent pas souffrir. Il fait peu de doute qu'en tant qu'hébraïsant, Sigüenza ait eu connaissance des approches de Cipriano de la Huerga et de Fray Luis de León. Il convient donc de s'interroger sur les raisons possibles qui ont pu inciter l'ironimite à abonder dans le sens du premier, Cipriano de la Huerga, pour définir une ligne, et peut-être à réfuter consciemment, on ne le sait pas, le point de vue résolument absolutiste du second, à savoir Fray Luis de León, selon une idée avancée par Alain Millou. Sur ce point, une hypothèse au moins peut être avancée, et je l'avancerai prudemment. Cette sacralisation du pouvoir telle qu'on la lit sous la plume de Sigüenza, repose de toute évidence sur une solide culture politique. Le portrait de Philippe II dépasse la simple description de proximité et laisse entrevoir en arrière-plan toute une construction idéologique qui doit en très grande part au biblisme hérité d'Alias Montano, mais pas seulement, hein, comme on l'a vu, par rapport à cette construction de l'image d'un roi souffrant et du bon pasteur. Derrière la vision traditionnelle d'un roi représentant le Christ sur terre et le récit quelque peu monotone des vertus et des exercices de piété du souverain, on retrouve, comme je vous l'ai dit, certains des grands aspects de la pensée politique du XVIe. C'est en effet un roi vicaire du Christ que nous dépeint Sigüenza, dans la droite ligne du traité du jésuite Rivadeneira, hein, selon une approche qui ne relève en rien du hasard ou de l'amateurisme, même si je ne peux pas du tout prouver que... Mais enfin, le rapprochement, ça bien sûr peut être fait ici. En ce sens, le contraste entre l'absolue orthodoxie de cette représentation du pouvoir et les audaces connues de Sigüenza en tant qu'exégète et prédicateur, hébraïsant, érudit et militant, et selon Marcel Bataillon, disciple secret d'Érasme, ce contraste ne laisse pas de surprendre. Donc on a ici des pages d'une redoutable efficacité quant à la sacralisation du prince et par ailleurs des audaces sur le plan exégétique et théologique qui sont extrêmement intéressantes. Il y a bien sûr chez ce ferveur défenseur de son ordre le souci d'assurer, à travers l'exaltation de la figure du monarque, la propagande de l'ordre des hiéronymites, mais aussi... je pense que l'explication qui s'impose le plus spontanément touche sans aucun doute à la dette que Sigüenza, mais aussi Alias Montano, aurait contractée à l'égard de Philippe II. Une dette conséquente pour des personnalités dont les positions intellectuelles étaient pour le moins hardies. N'est-ce pas en effet entre les murs du monastère de l'Escorial que maître et disciple, Sigüenza et Alias Montano, prêchent inlassablement le retour aux écritures au détriment des études scolastiques? Aussi, ce retour sacralisant à l'adresse du roi peut-il être interprété, dans le cas de Sigüenza, comme un mouvement d'allégeance ou de gratitude envers celui à qui il doit la liberté et qui aurait déclaré à son endroit « Dites ce que n'est pas Fray José et ce qu'il ne sait pas, vous en aurez fini plus vite. Hein? Decid lo que no es Fray José y lo que no sabe y acabaréis más presto. » Donc, par ce juste retour des choses, l'auteur de l'Historia de l'Orden de San Jerónimo confirmait ainsi définitivement les liens d'amitié et de confiance qui unissaient son ordre au monarque espagnol. Je vous remercie. Merci.